sur rts.ch.
Il faut voir d'où vient cette Cour européenne. Elle a été créée, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les horreurs liées au nazisme. Et effectivement, d'un point de vue purement juridique, l'Allemagne était souveraine et avait juridiquement le droit d'exterminer les Juifs. Et c'est pour ça que cette Cour a été créée, pour dire non, un État n'a pas forcément raison. Même si un État est souverain chez lui, il peut quand même prendre des décisions moralement fausses. Et c'est en cela que la Cour européenne est légitime.
Grundrechte und die sind zu respektieren.
Vacarme.
Peut-on se passer de la Cour européenne des droits de l'homme?
Véronique Marty, Marc Jouze.
Bonjour à toutes et à chacun. Aujourd'hui, on va vous raconter deux histoires poignantes, douloureuses et édifiantes, vécues par deux femmes que le reporter de Vacarme a rencontrées dans le cadre de cette série de reportages consacrée à la Cour européenne des droits de l'homme. Isabelle Nöllinger nous racontera, dans la deuxième partie de l'émission, l'incroyable histoire de son mariage avec un homme qui, après la naissance de leur premier enfant, se révélera être un redoutable intégriste religieux. Une histoire rocambolesque qui s'est déroulée entre la Suisse et Israël, en passant par Strasbourg, où siège la Cour européenne des droits de l'homme, qui joua dans cette affaire un rôle primordial. Mais avant cela, on va se rendre à Zurich pour y rencontrer Renat Ovald-Mohr et son avocat, maître David Ousmann. Il y a 10 ans, le mari de Renat Mohr décédait d'un cancer de la plèvre dû à l'amiante qu'il avait manipulé dans son métier. Débouté de leur demande d'indemnisation par les tribunaux suisses, Renat Mohr et ses filles avaient, il y a 2 ans, obtenu un jugement favorable de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour de Strasbourg demandait au tribunal fédéral de revoir sa copie. Depuis, Renat Mohr attendait impatiemment la réaction du TF. Eh bien, elle est tombée il y a quelques jours. Et ce matin-là, quand l'avis du tribunal fédéral arrive au cabinet de Maître Ousmann, le reporter de Vacarme est présent pour tendre son micro. Voici, en dernière instance, un reportage de Christophe Canu, réalisé par Rodolphe Bouchot.
Christophe Canu.
Oui. Alors, vous avez vu ce qui est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu?
Non,
rien. En même que hier, le Cour fédéral a mis le recours. Et alors, toute la situation est ouverte, non? Et on peut continuer le process.
Ok, ben... Bah,
vous... c'est super, non? C'est vraiment... on n'a pas su ça, non? Alors, vous venez?
Alors, c'est vraiment les hasards du calendrier. Je viens à Zurich parler d'une affaire concernant l'indemnisation de victimes de l'amiante traitées par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et c'est le jour où le tribunal fédéral précise qu'il accepte d'entrer en matière sur la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. C'était ça, les gars, ça s'est fait, le communiqué est tombé il y a 5 minutes à peine, et c'est vraiment l'effervescence ici. Vous êtes en train de feuilleter un papier, qu'est-ce qu'on y trouve ?
Ich habe sie vor 5 Minuten erhalten. Ich habe sie noch nicht ganz gelesen, nur überflogen.
J'ai pas encore lu le temps de lire toutes ces pages. J'ai reçu le document juste il y a 5 minutes.
Ja, die Bestätigung, dass wir gewonnen haben.
Oui, dans ce document, c'est écrit qu'on a gagné. La Cour à Strasbourg a admis notre requête. On va être indemnisé pour la maladie subie par mon mari.
Alors, David Ousmann, vous nous avez accueillis en étant très enthousiaste. Qu'est-ce qui vient de se passer ?
Hier, le 25 novembre, est arrivée la décision du tribunal fédéral. Le tribunal fédéral a admis la décision de Strasbourg qui donnait raison à Madame Ovald-Mohr. Et donc, elle reconnaît le fait que cette prescription n'était pas valide et qu'il faut indemniser la veuve et les filles de la victime.
Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, votre situation ? Pourquoi vous attendiez avec impatience cette décision?
Ganz am Anfang einfach Beschwerden. Er wurde sehr schnell müde.
Mon mari est tombé malade. C'était lié à l'amiante qu'il avait côtoyé dans son travail bien des années auparavant. C'était un cancer de la plèvre, ça s'est déclaré très vite, très fort. Il a été soigné ici à côté, à la clinique Hirschlanden. On a tout de suite posé le diagnostic, c'était un cancer lié à l'amiante. Et très vite, sa santé s'est dégradée, il ne pouvait plus respirer, plus parler. Ça touche la gorge et le système respiratoire. Et il est mort très rapidement.
Und war zu Hause, bis zu Hause gestorben. Ich habe ihn zu Hause gepflegt.
Et comment vous êtes retrouvé à Strasbourg?
Wichtigste Grund ist, ich habe meinem Mann versprochen.
C'est une promesse que j'ai faite à mon mari, que j'allais me battre jusqu'au bout, aussi longtemps que mon assurance juridique couvrait les frais et que je pouvais compter sur Maître Ousmane. On se battrait jusqu'au dernier recours pour obtenir justice.
Parce qu'en fait, votre mari est décédé en quelle année?
Am 10. November 05, also vor 10 Jahren.
Mon mari est mort en novembre 2005, ça fait 10 ans.
Donc vous avez décidé de vous battre, parce que quel était le problème? Qu'est-ce qui s'est passé avec la juridiction suisse?
Ja. Ich meine, jetzt sind 10 Jahre.
Le problème dans cette affaire, c'était le délai de prescription. Le délai de prescription, c'est-à-dire pour déposer plainte dans des maladies liées à l'amiante, c'est 10 ans en Suisse. Or, la maladie peut couver beaucoup plus longtemps. Dans le cas de mon mari, c'est ce qui s'est passé. La maladie a été latente pendant des décennies. Et comme on avait déplacé ce délai de prescription, les différentes instances jusqu'au tribunal fédéral ne sont pas entrées en matière. C'est pour ça qu'on est allé jusqu'à Strasbourg.
Bevor sie Kenntnis von dem Fall haben.
Pour qu'on se rende compte en fait le cheminement, en tout et pour tout, jusqu'à cette décision qui est tombée le 25 novembre dernier, ça a pris combien de temps?
Ja, angefangen hat mein Mann, als schon krank war. Also bis jetzt sind es 12 Jahre, alles in allem.
C'est mon mari qui a fait les premières démarches juridiques. Il était déjà malade et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 12 ans.
Et comment on tient 12 ans?
Ja, ich denke einfach, wenn es Ungerechtigkeiten gibt, ganz generell.
Quand quelque chose d'aussi injuste se passe, c'est normal de se battre pour obtenir justice, et c'est ce qu'on a fait.
David Ousmane, pour vous, c'était logique d'aller à Strasbourg?
Ja, ich habe eigentlich von Anfang an gewusst, dass wir diese Frage stellen müssen. Und wir haben uns von Anfang darauf eingestellt, dass wir mutmaßlich nach Strasbourg gehen mit diesem Fall.
Quand on y est allé à Strasbourg, on pensait pas gagner, mais cette question du délai de prescription, elle devait être posée.
Quand votre avocat vous a dit on va à Strasbourg, comment vous avez réagi?
Klar, solange die Rechtsschutzversicherung für die Kosten aufkommt.
J'étais d'accord, bien sûr, tant que l'assurance juridique payait, on y allait.
L'assurance juridique aurait pu vous laisser tomber en cours de route?
Sie könnte auch nein sagen und das ist im Grunde genommen sind es nur zwei Versicherungen.
Bien sûr que l'assurance, si elle juge que le cas a aucune chance, elle peut refuser de payer. Mais sans ça, un privé peut absolument pas suivre cette voie. C'est beaucoup trop cher s'il n'est pas soutenu par une assurance.
Rein von der finanziellen Seite her.
Sie hat eine Rechtsschutzversicherung gehabt, eine normale Rechtsschutzversicherung bei der Coop. Coop ist eine.
Oui, c'est la victime du cancer. En fait, le mari de Madame Ovalmont qui avait souscrit à cette assurance avant que sa maladie se déclare, il se savait pas malade.
Ja, es ist schon so, eine Rechtsschutzversicherung kann sagen, man bezahlt nicht, wenn es aussichtslos ist.
L'assurance peut refuser de payer quand elle juge qu'un cas n'a plus aucune chance, mais dans notre cas, puisqu'elle a payé, elle jugeait que la cause était défendable et surtout, c'était un précédent, ça pouvait faire jurisprudence du moment que la Cour européenne allait se prononcer sur cette question de la prescription.
Ja, also bei diesem Entscheid mitzuwirken.
Et justement, là, le tribunal fédéral vient de rendre son verdict. Et il est dit ceci, arrêt du 11 novembre 2015, indemnisation des victimes de l'amiante. Le tribunal fédéral admet la demande de révision concernant les prétentions en dommages, intérêts et indemnités pour tort moral des filles et épouses d'une victime de l'amiante. La cause est renvoyée au tribunal des prud'hommes de Baden pour nouvelle décision. comme la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la Suisse en 2014 en raison de la problématique de la prescription dans les affaires relatives à l'amiante, la prescription ne devra pas être prise en compte dans la nouvelle décision à rendre en l'espèce. Qu'est-ce que ça va changer à partir de maintenant ?
Mais ça change énormément de choses. Il y a énormément de cas, des dizaines de cas de personnes qui sont dans ce cas de figure où le délai de prescription les empêche de déposer plainte pour des maladies qui se sont déclarées plus tard. Et évidemment, on va pouvoir reprendre tous ces cas. La première instance, le tribunal des prud'hommes de Baden, doit reprendre l'affaire au point de départ et la juger sans tenir compte de ce délai de prescription.
Dans cette décision du tribunal fédéral, il est écrit que la demande de révision est admise. Parce que le tribunal fédéral aurait pu retoquer cette décision, aurait pu dire au juge de Strasbourg « Non, non, c'est à vous de revoir votre copie, nous on ne change rien ».
Le tribunal fédéral pouvait ne pas tenir compte de la décision de Strasbourg, mais il devait étayer cette décision de façon cohérente. Et ensuite, on aurait examiné la décision du tribunal fédéral et on aurait pu la contester et puis repartir devant le tribunal à Strasbourg.
En fait, si je vous suis bien, David Ousmann, le tribunal fédéral a quand même une marge de manœuvre. Il n'est pas obligé d'appliquer toute décision venant de Strasbourg.
Face à une décision de Strasbourg, le tribunal fédéral a ensuite toute latitude pour mettre cette décision en pratique. Le tribunal fédéral peut soit appliquer, soit contester une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le tribunal fédéral a estimé que les dédommagements qui étaient accordés par la Cour à Strasbourg étaient insuffisants face à l'industrie qui était la partie pendante dans ce cas-là. Et vu que le délai de prescription était un argument qui n'avait plus cours, il a décidé de reprendre la procédure et d'y revoir le cas, comment on pouvait le régler de façon la plus juste possible. La Cour à Strasbourg a attribué 12 000 euros à la veuve et ses filles pour violation des droits de l'homme, ce qu'elle jugeait dans le cadre de ses compétences. Pour ce qui est du cas à régler de la façon la plus juste possible, on était très loin des dédommagements qu'il fallait verser, puisque on parle de 200 000 francs. Et c'est sur ces 200 000 francs que va devoir se prononcer le tribunal des prud'hommes de Baden, qui était la première instance concernée par ce procès.
Was wir bekommen haben, diese 10.000 Franken, das hat nichts mit dem Schaden, den wir gefordert haben, diese 200.000 Franken zu tun.
Oui, parce qu'il faut juste préciser que la Cour européenne de Strasbourg n'est pas compétente pour juger le montant des indemnités à verser en Suisse.
Oui, c'est donc la Cour européenne, elle ne peut pas décider des dédommagements qui seront versés en Suisse par deux parties suisses, soit l'industrie à la plaignante. Elle pouvait simplement parler du principe de cette prescription liée à 10 ans, et du moment que ce principe n'est pas reconnu et réfuté par la Cour européenne, il faut revoir le procès en faisant abstraction de ce point-là et voir ce qui est juste comme dédommagement pour la veuve et ses filles.
C'est pas rien alors comme histoire, parce que vous allez contre les intérêts économiques.
Das ist mir völlig klar. Aber ich denke, nur weil das mächtige Konzerne sind, muss man nicht unbedingt in die Knie gehen.
C'est évident qu'on va se battre contre l'industrie, mais c'est pas parce qu'ils sont très puissants qu'on doit se mettre à genoux et accepter leurs lois.
Ça peut prendre encore combien de temps, vous savez?
Si on doit aller encore une fois jusqu'au tribunal fédéral, ça prendra 5 ou 7 ans. Mais ce que j'espère, c'est qu'au vu de ces décisions, l'industrie accepte de se mettre autour d'une table avec les parties concernées et accorde un dédommagement global à l'ensemble des victimes. Bien sûr, ça ne s'arrête pas du tout aux maladies liées à l'amiante. C'est cet arrêt qui fait jurisprudence. Ça peut concerner des médicaments dont les effets négatifs se révèlent au-delà de 10 ans, alors que jusqu'ici c'était prescrit. Ça peut concerner toutes sortes d'atteintes à la santé liées à la radioactivité ou à d'autres produits.
J'ai rencontré dans un de mes reportages consacré à cette série sur la Cour européenne des droits de l'homme, Jean-François Perrin, un professeur honoraire de droit civil de l'Université de Genève. Et puis lui, il me disait, d'un strict point de vue de droit civil, qu'il ne comprenait pas comment une instance comme Strasbourg pouvait intervenir dans le droit civil suisse.
Il faut voir d'où vient cette Cour européenne. Elle a été créée, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les horreurs liées au nazisme. Et effectivement, d'un point de vue purement juridique, l'Allemagne était souveraine et avait juridiquement le droit d'exterminer les Juifs. Et c'est pour ça que cette Cour a été créée, pour dire non, un État n'a pas forcément raison. Même si un État est souverain chez lui, il peut quand même prendre des décisions moralement fausses. Et c'est en cela que la Cour européenne est légitime. En Suisse, contrairement aux autres pays occidentaux, on n'a pas de cour, on n'a pas d'instance chargée de vérifier que les décisions du Parlement, qui concernent des lois fédérales, sont conformes avec la Constitution. Ça signifie qu'en dernier recours, c'est le Parlement et le peuple, lorsque les objets retournent en votation, qui prennent les décisions. Ça signifie que le divorce, à terme, peut être jugé par la population. Et c'est sans doute, enfin on est là en plein dans la conception qu'a de l'État et de la Suisse l'UDC, où c'est le peuple, sous sa forme de la Landsgemeinde, où on vote à main levée sur les objets qui concernent la collectivité, qui a le dernier mot sans aucun pouvoir de recours. C'est pour ça, Strasbourg en Suisse, c'est le garde-fou contre les décisions prises par le peuple, mais qui seraient en violation avec la Convention européenne des droits de l'homme.
Das jetzt mit der Verfassung nicht übereinstimmt, kann man es trotzdem nicht korrigieren.
Die wichtigste Erkenntnis aus dem Ganzen, aber die hatte ich vorher schon, dass wenn man Recht spricht, das hat nichts mit Recht bekommen zu tun. Gar nichts.
Le plus important, et c'est quelque chose que j'ai toujours su, mais le plus important que j'ai appris dans cette histoire, c'est que même quand quelqu'un dit la vérité, ça ne veut pas dire qu'il obtiendra justice.
En même temps, en ce qui vous concerne, vous avez obtenu justice à Strasbourg.
Ja, ja, aber das heißt ja noch gar nichts. Das ist Straßburg. Jetzt müssen wir auf die Gesetzgebung in der Schweiz warten. Was da passiert, das ist entscheidend für uns.
Mais avec Strasbourg, l'histoire n'est pas terminée. Maintenant, l'enjeu, c'est comment on va transformer les lois suisses en regard de ce jugement, et c'est ça qui nous importe.
Cette déclaration et ses pactes constituent la protestation de la conscience humaine contre les massacres et les injustices dont trop d'êtres humains ont été victimes.
I swear that I will exercise my functions as a judge honorably, independently, and impartially, and that I will keep secret our deliberations.
La Cour.
Messieurs, asseyez-vous. Bonjour, mesdames et messieurs, je déclare ouverte l'audience publique sur le fond de l'affaire Neulinger et Schurruck contre la Suisse. L'affaire a été introduite devant la Cour le 26 septembre 2007 par deux ressortissants suisses, Madame Isabelle Neulinger et son fils Noam Schurruck, en vertu de l'article 34 de la Convention.
Ah, il est à 45, ça va, on a deux minutes.
C'est celui-là ?
Oui, Basel, SBB, c'est celui-là, parfait. Allons-y. En route pour Bâle.
Vous avez sorti un journal, Isabelle Neulinger, c'est quel journal ?
C'est une édition spéciale de l'organisation Amnesty International qui a mené une campagne d'information sur la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme pour sensibiliser l'opinion publique suisse à l'importance de cette Cour dans une démocratie.
Et page 5, il y a un article qui vous est consacré, Le combat d'une mère.
Oui, l'organisation Amnesty a repris des éléments de mon histoire puisque j'ai gagné une affaire à la Cour européenne des droits de l'homme contre la Suisse. Cette campagne d'information est née de la menace que représente la volonté de la Suisse et de quelques autres pays européens de dénoncer purement et simplement la Convention européenne des droits de l'homme pour laisser place à un droit strictement national. Ce qui, évidemment, serait un désastre pour la démocratie, puisqu'on peut imaginer que si les droits de l'homme tels qu'on les entend aujourd'hui ne sont plus respectés et que la Convention n'est plus appliquée en Suisse, vous imaginez ce que ça peut donner dans des pays qui ne les appliquent déjà pas aujourd'hui. Donc ça serait une vraie catastrophe. Donc je me suis engagée avec Amnesty pour cette campagne d'information. Et cette cour et cette convention me sont très chères parce qu'elles ont personnellement changé ma vie. Et que, comme je disais à Amnesty, je voyagerai au bout du monde pour la défendre. Alors je vais à Bâle assister à l'avant-première d'un film qui représentera le Canada aux Oscars, qui raconte l'histoire de deux personnes qui vont se rencontrer et qui vont être amenées à faire le choix de quitter leur communauté ou non. Et on peut tirer un parallèle avec mon histoire et avec ce qui m'a amenée devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque j'ai aussi dû quitter mon cadre de vie et ma communauté en quittant Israël pour rentrer en Suisse. J'ai quitté la Suisse en 1999 pour aller m'installer en Israël. Je suis juive moi-même. Et je me suis mariée en Israël. Notre petit garçon est né en Israël. Et peu après la naissance de notre petit garçon, mon mari, qui n'était jusque-là pas du tout religieux, pas du tout pratiquant, a décidé de rejoindre un mouvement religieux ultra-orthodoxe. Notre vie a été très très bouleversée par ce choix et par ce changement, jusqu'au moment où elles ont empiré de telle façon qu'il a fini par mettre la vie de notre bébé en danger et à me menacer de mort. Et j'ai décidé à ce moment-là de divorcer, de demander le divorce. C'était 6 ans après mon arrivée en Israël. Et les choses ont dégénéré à tel point que même après avoir obtenu le divorce, Je restais l'objet de menaces très précises.
Quand vous parlez de menaces très précises, c'était de la part de votre mari?
Oui, de la part de mon ex-mari. Oui. Donc j'ai décidé de fuir tout simplement et de rentrer en Suisse avec mon enfant. J'ai décidé de fuir et j'ai été obligée de fuir Israël clandestinement en traversant le désert du Sinaï avec mon bébé caché sous du matériel de plongée. Donc j'ai réussi, après des péripéties complètement rocambolesques, à rejoindre Sharm el-Sheikh, d'où j'ai pris un avion pour la Suisse. Et j'avais eu l'assurance des autorités suisses, tout à fait off the record, que je ne serais pas inquiétée si j'arrivais à regagner la Suisse, et que j'avais, en regagnant la Suisse, un certificat de divorce et la garde de mon enfant, ce qui était le cas. Et donc, quand je suis finalement arrivée en Suisse, au terme de toutes ces péripéties, au contraire d'être en sécurité, c'est tout à fait l'inverse qui s'est produit, puisque au moment où le moment est venu de refaire les papiers d'identité de mon petit garçon, le ciel m'est tombé sur la tête, puisque je me suis rendu compte que j'étais recherchée par Interpol. Les autorités suisses ont signalé ma présence en Suisse aux autorités israéliennes, qui ont exigé le retour immédiat de mon petit garçon au motif de la Convention de l'AE, qui est donc le traité qui régit les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Ça a été le début d'un très très long combat judiciaire, qui est passé d'abord par la justice de paix, et puis par le tribunal cantonal, et puis par le tribunal fédéral, qui a, en dernier recours, alors que j'avais gagné dans les tribunaux de premier recours, qui a décidé de me laisser 5 semaines pour rentrer en Israël avec mon enfant. On est à ce moment-là, en 2007.
3h, moins 7, l'arrivée à Bâle. Merci. Bon après-midi. À tout le monde.
Merci.
Ce qui peut surprendre a priori, c'est que le fait de demander le retour de l'enfant en Israël, ça vous engageait vous aussi. Finalement, la décision engageait deux personnes alors qu'elle était censée viser une seule personne, votre enfant.
C'est très très juste et c'est une des raisons pour laquelle j'ai fini par l'emporter devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque cette grande chambre a décidé que c'était une ingérence inacceptable dans un processus démocratique et que Étant de nationalité suisse, j'avais tout à fait le droit de décider de mon lieu de résidence, en l'occurrence de rester en Suisse.
En fait, la Cour européenne des droits de l'homme a le pouvoir d'ordonner à un État de respecter sa décision.
Absolument. La Cour européenne des droits de l'homme a un impact potentiel sur la vie de plus de 800 millions d'habitants des 47 États membres du Conseil de l'Europe, puisque tout un chacun peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme s'il estime que ses droits ont été violés. Donc c'est une révolution énorme en droit individuel. Donc oui, la Cour européenne des droits de l'homme a le pouvoir d'ordonner à un État membre de suspendre une procédure judiciaire, puisque c'est un organisme supranational.
Avant d'être plongé dans toute cette histoire, vous ne soupçonniez même pas l'existence de la Cour européenne des droits de l'homme ?
Pas du tout. Vous savez, pour moi, la Cour européenne des droits de l'homme, c'était un monstre abstrait, comme pour beaucoup de monde, je pense. Et quand je dis monstre, je pèse mes mots, parce que c'est une entité, c'est gigantesque. Et donc, j'ai été plongée au cœur de cette entité judiciaire.
Vacarme.
D'abord à la Chambre, et puis à la Grande Chambre. Et je dois vous dire que moi, qui n'y connaissais rien, j'ai suivi une formation en droit accéléré.
Une minute.
Ah oui, mais c'est quoi ça, monsieur? C'est pas un express, c'est un truc de...
Express pour une poulfe. Sans coffeine.
Oui, mais ça vient du thermos.
Non, la machine, c'est l'eau, la machine.
Je vous remercie. Nous en arrivons donc au terme de l'audience. Je remercie tous les comparants qui ont assisté la Cour par leurs interventions et leurs réponses à ces questions. La Cour va maintenant délibérer. L'audience est levée. Merci.
(0) 58 236 236 0, c'est le numéro de Vacarme pour réagir au reportage que vous venez d'entendre. À la lumière de ces deux affaires concernant des justiciables suisses, pensez-vous que l'action de la Cour européenne des droits de l'homme est profitable et nécessaire à notre pays? Ou estimez-vous au contraire que la justice doit être rendue en Suisse de manière autonome et sans ingérence d'où qu'elle vienne? 058 236 236 0.
Vacarme, Véronique Marty, Marc Jouz, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Christophe Canu, Rodolphe Beauchamp.
Demain, dans le cinquième et dernier épisode de cette série de reportages sur la Cour européenne des droits de l'homme, on retournera à Strasbourg pour y rencontrer, entre autres, la juriste Elisabeth Lambert-Abdelgawan.
C'est ça l'idée, c'est de trouver un standard commun, d'assurer un standard minimal de protection des droits fondamentaux, en deçà duquel un État européen qui serait parti au système ne pourrait plus retomber. On peut très bien voir un gouvernement qui arrive au pouvoir d'un de nos États et revenir sur certains acquis. Et dans ce cas-là, le mécanisme de la Convention européenne sera extrêmement utile parce qu'il évitera des retours en arrière en matière de liberté fondamentale.
Un reportage à découvrir demain dans Vacarme à partir de 13h. Là, tout de suite, c'est Passagère sur la Première.
Une heure et demie.
Passagère. Émilie Gasque.
Passagère, nouvelle diffusion.
Salut. Ça va? Oui? Peut-être? Mais comment ça? C'est plutôt oui? Non? Non mais ça va ou pas? Peut-être. Ok.
Le groupe Tanger, oui, peut-être.
À quelle heure vous rendez-vous compte? C'est pas une façon, essayez de vous rappeler de toute façon. Si vous croyez, réfléchissez un peu. On sera amené à se revoir. Vous devez bien avoir une idée. On vous a entendu dire oui, peut-être, plutôt non. Je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Oui.